c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business, cette nouvelle émission, un nouveau direct depuis le stade de Chamier. RLP Business, votre émission sur l'entrepreneuriat. Quitter le salariat, devenir indépendant, faire du business, se mettre à son compte ou être un talent dans le Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, Coupe du Monde oblige, nous allons parler foot. Nous sommes avec Julien Lacour de Cage Academy, l'ancien responsable sportif de Boulazac. Julien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ça va, tu vas bien?
Impeccable.
T'es prêt pour la Coupe du Monde?
Il me tarde.
À moi, ça commence dans très peu de temps. D'ailleurs, peut-être que quand vous nous écouterez, ce sera en plein. Un peu d'actualité. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
Les actualités.
Actualité, je voulais profiter de la présence de Julien et de ce que j'avais observé dans le département à Trélissac, Boulazac et Bergerac pour parler de l'influence de l'argent dans le monde associatif, le foot associatif, y compris les petits clubs locaux. La notion d'argent a de plus en plus d'importance. Julien, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, en effet, depuis maintenant quelques années, hein, moi je l'ai vécu quand je jouais, les clubs ont besoin de financement. Après, c'est l'utilisation qui en est faite souvent qui fait défaut à ces clubs-là, mais de plus en plus, les clubs ont besoin d'argent sur les frais d'engagement, les arbitres, sur les frais de déplacement, sur tout ça.
Donc on ne se rend pas forcément compte de ça, mais par exemple, la réforme actuellement des divisions françaises fait que Trélissac, Bergerac, on n'est pas sûr de pouvoir garder deux clubs de national dans le département.
De toute façon, on ne les avait pas cette année parce que Bergerac était rétrogradé administrativement en R3.
Pour des raisons
financières.
Financières, voilà.
Trélissac était descendu sportivement en R1, là il remonte et tant mieux pour le département. Donc on n'aura que Trélissac en nouvelle National 2.
D'accord. Que
maintenant ça s'appellera National 2. Donc on
a Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3,
National, National 2 et après R1.
Et après R1.
Régional.
Donc, quelque part, les gens, on a perdu une division. Quand on dit qu'on était en National 1 auparavant, on était quelque part en L3, là on est descendu en L4. Il y a une redistribution des championnats, mais il y a moins de clubs et donc en fait il y a plus d'argent qui circule, ça.
Ça fait des années déjà, je pense que la Ligue 3 elle aurait dû être faite depuis quelques temps parce que ne serait-ce qu'en National 2, il y a 3-4 ans, quand on voyait le fonctionnement de Trélissac ou de Bergerac, où les joueurs ils étaient tous, ou 95% étaient footballeurs, amateurs mais footballeurs, donc où ils travaillaient pas, donc il fallait, quand tu travailles pas, il faut leur donner un salaire pour qu'ils puissent vivre.
Oui, ils sont amateurs mais ils sont semi-pro en fait.
Ils ont pas le bon rôle parce que c'est des bons joueurs qui jouent, qui font que ça, mais qui ont un salaire classique de quelqu'un qui, comme moi ou comme vous, qui travaillait à côté.
Alors, c'est peut-être le prix qu'il a fallu payer pour les performances de nos clubs, de nos équipes nationales. De notre temps, quand nous étions jeunes, c'était beaucoup plus à l'arrache, c'était beaucoup plus amateur, mais ça se ressentait aussi au niveau des performances et des résultats. Quand on voit comment c'est structuré en Allemagne, moi j'ai un ami qui habite au Brésil, il me dit mais ça joue au ballon partout. J'ai un ami qui est un ancien directeur technique de chez Adidas. Toutes les pauses entre midi et deux, c'était gymnase intérieur, foot en salle et tout ça jouait tout le temps. Après tout, si on veut avoir un bon niveau par rapport aux autres, c'est peut-être ça le prix à payer.
Je sais pas si c'est le prix à payer, mais aujourd'hui c'est compliqué. Nous, ne serait-ce que chez les enfants, ne serait-ce que mon époque, j'ai 38 ans aujourd'hui, je suis pas encore très vieux, mais quand j'étais à l'école primaire à Brantôme, j'avais le choix entre faire du foot ou faire du judo.
Ouais.
Aujourd'hui, moi, mon fils, il a Château-l'Évêque à l'école, il a fait du skate, il a fait du judo, il peut aller faire du hand, du bad, du basket, il y a 50 000 activités, donc déjà les tenir sur une activité, c'est compliqué. Donc ça limite un peu le temps d'activité sur une seule passion, quoi.
Oui, est-ce que tu fais penser à quelque chose, là, quand ma fille était à Trélissac, je trouvais qu'elle avait beaucoup de pression. Elle avait 9 ou 10 ans, 8, 9, 10, et déjà à cet âge-là, dans certains clubs, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les enfants.
Trop, il y a trop.
Bon, c'est l'invité de la semaine, c'est Julien Lacour. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
Julien Lacour, Cage Academy. Cage Academy, c'est une marque de gants, c'est une école de football, c'est une spécialisation de gardiens. Ça va être intéressant de regarder parce que c'est un produit du cru, il fait partie des fondateurs. Mais avant, tu vas nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à devenir fondateur et à travailler dans cette académie de gardien de but. Qui est Julien Lacour ?
Julien Lacour, c'est un des cofondateurs de Cage Academy.
D'accord.
Comme je le disais tout à l'heure, j'ai 38 ans maintenant, j'ai deux enfants, donc du coup, et j'ai travaillé beaucoup dans le foot. J'ai eu la chance jusqu'à mes 23-24 ans de pouvoir faire que du foot, c'est-à-dire que sorti du bac, j'ai passé mes diplômes, donc j'étais apprenti dans les clubs ou salarié dans les clubs et joueur. Et dès l'instant où j'ai eu, c'est pas les croisés qui m'ont fait que j'ai pas été professionnel, hein, mais parce que j'étais trop nul et trop feignant, mais par contre, dès que j'ai eu les croisés, en fait, j'ai passé le cap de repasser des diplômes un peu plus élevés et passer le cap d'éducateur, et je prenais plus de plaisir à être éducateur que joueur, donc j'ai arrêté très très tôt de jouer. À 26 ans, j'ai arrêté de jouer. Donc direct derrière, après, j'ai passé la fin de mes formations, mon brevet d'état, mon CEGB, pour pouvoir faire de cette passion-là un métier, quoi.
Donc en fait, on va expliquer, tu peux être entraîneur jusqu'au niveau R1, c'est ça ? Et en plus, tu as un diplôme d'entraîneur des gardiens.
Oui.
D'accord. Et tu as été aussi, il faut quand même le dire, tu as joué à Trélissac, tu as joué à Sarlat, tu as été responsable sportif de Boulazac durant 4 ans.
Ouais. Et avant, j'étais responsable de la section sportive du Collège Anne-Franck pendant 5 ans.
D'accord. Tu t'occupais notamment de toutes les équipes de jeunes,
ouais,
de Boulazac, de la com et autres. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. D'ailleurs, quand tu y étais, il y a eu des magnifiques manifestations de week-end. On a reçu les Girondins enfants, on a reçu des équipes, les 17 ans, 18 ans, je crois, de plusieurs clubs professionnels.
Ouais, il y avait Marseille, Toulouse, Amiens, Angers. Je ne sais plus. Angers, tu crois ?
Il y en avait un de l'Ouest là-bas.
Ouais, c'est possible.
En tout cas, c'était l'antichambre des professionnels. Mm-hmm. Ils venaient, la pelouse marchait bien et autres. Moi, c'est l'époque où j'aimais bien aller à Boulazac. Donc vraiment, tu sais ce dont tu parles. Après, tu as quitté Boulazac, tu as fondé Cage Academy. Alors Cage Academy, comment est-ce que l'idée est venue ? Comment est-ce qu'on crée comme ça une marque dans le football, qui est un secteur hyper concurrentiel, où il n'y a pas tellement d'équipement ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a comme équipement dans le foot ? Il y a les crampons, les shorts, les survêtes et les gants. Et les protège-tibias un petit peu éventuellement.
Les protège-tibias,
voilà. Et pour les gardiens, peut-être des coquilles ou des genouillères, mais je ne sais pas.
Nous, on n'en met pas.
Alors, qu'est-ce que ça... à la vraie, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on crée une marque dans le foot et qu'on crée un produit dans le foot ?
Alors, en fait, avant d'arriver à Boulazac et de ce parcours-là, j'ai rencontré une personne en formation qui... En fait, c'est une personne qui connaissait une autre personne qui nous a mis en contact avec Julien Gac, aujourd'hui qui est mon associé, un de mes associés. Et du coup, cette personne-là avait récupéré les droits de franchise de la marque Just for Keeper. Just for Keeper, c'est Cage, mais d'il y a 10 ans en Angleterre.
D'accord.
C'est une marque qui fait académie de gardien de but et qui développait ses modèles de gants pour vendre à ses gardiens. On a fonctionné avec cette marque-là pendant 8 ans, à peu près 8-10 ans. Sauf que Brexit arrive, livraison compliquée, les droits de douane, c'était aussi cher que le stock qu'on achetait.
Ah, le Brexit a embêté le commerce entre l'Angleterre et l'Europe.
En tout cas sur notre secteur, et je pense que beaucoup de secteurs comme ça qui étaient livrés direct de l'Angleterre a été impacté. Donc nous, on a été impacté. Et à côté de ça, même si les gants, on adorait ce qui était fait sur cette marque-là, la communication, on n'avait pas de retour de com, on n'avait pas forcément d'aide sur le relationnel avec les clubs, démarchage et compagnie. Donc du coup, avec Julien, on s'est rencontrés on se voyait souvent, mais on s'est donné un rendez-vous à Paris il y a maintenant 3 ans. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On continuait avec Just for Keeper parce que nous, on adorait la marque, on adorait tout ce qui se faisait. Enfin, notre modèle d'académie fonctionnait. Lui, sur Caen, il avait une centaine de gardiens avec 2 coachs. Moi, sur Périgueux, j'avais mes 30-40 gardiens par saison. Donc c'était un modèle qui fonctionnait. Donc on s'est vus tous les deux, puis on a décidé de casser le contrat avec Just for Keeper et de créer notre propre académie. Et c'est parti comme ça.
Alors, ce que tu me dis, c'est que dans votre aventure, il y a 2 secteurs. Il y a le secteur école, il y a le secteur produit.
Oui.
Ce sont 2 choses très différentes. On va commencer par le secteur produit, parce que moi, ça m'intéresse quelque part, comment on fait pour designer. Je sais qu'à l'époque, avec un ami, on avait fait le Samba Pito, qui était un sifflet brésilien pour la du monde au Brick 14. C'est pas hop, on va faire un sifflet, c'est hop, on va faire des... Il y a plein de choses derrière. Il faut le designer, il faut trouver une originalité par rapport à autre chose, il faut le faire. Donc il faut trouver des producteurs. Il y a toute la partie fabrication. Ça déjà, c'est un pôle qui est énorme. On parlera après distribution et du commerce. Alors déjà, comment est-ce que vous avez créé vos gants ? Comment ils voyez se distinguent des autres et comment vous avez réussi à les faire fabriquer?
Alors, pour les faire fabriquer, c'est ultra compliqué dans certains secteurs d'activité. Dans le nôtre, c'est plutôt simple parce qu'il n'y a que le Pakistan qui fabrique.
D'accord.
C'est-à-dire que, quelle que soit la marque, Nike, Adidas, Ulsport, les grosses marques, hein, je parle des grosses marques.
On ne sait pas faire des gants en France, là?
Non, il n'y a que eux qui fabriquent. En tout cas, à ce prix-là.
Ok, d'accord.
Mais il n'y a que eux qui fabriquent. C'est eux qui font tous les modèles génériques de toutes les marques que vous pouvez voir sur les réseaux, sur les clubs. Enfin, voilà, c'est eux qui fabriquent. Donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que, bêtement, hein, on a fouillé sur les réseaux, fouillé sur Internet pour trouver des usines, en tout cas des mecs qui fabriquaient. On a pris contact avec ces gens-là et une fois qu'on avait plusieurs offres d'achat avec des catalogues de gants à fabriquer, machin, compagnie, on a fait notre choix sur une usine et qui nous a suivi direct, qui nous a accompagné dans ce projet-là de création de marque. Donc, on est parti avec eux et on a fait une saison avec eux. Là, on a un peu modifié notre modèle parce qu'on n'était pas trop content sur certains points de la fabrication. Enfin, on avait des points où on était plutôt exigeant et ils ne pouvaient pas nous le rendre comme nous, on espérait. Donc, on a changé d'usine.
Vous avez fait un petit peu de R&D quand même
Ouais, en fait, tu ne fais pas de la R&D directement.
R&D, recherche et développement.
C'est ouais,
en
ouais.
Fait,
mais tu ne fais pas vraiment de la R&D. Nous, ce qu'on fait plutôt, c'est... En fait, on prend les bonnes idées de tout le monde, enfin comme mm-hmm. toutes les marques peuvent faire avec nous nos ressentis.
En tant que spécialiste, en plus tu sais ce que tu veux.
Parce que voilà, nous en plus connais, l'avantage qu'on a, c'est que moi j'entraîne une quarantaine de gardiens semaine. Arthur, notre autre associé qui est aussi coach, il a sa 20-30aine de gardiens, plus tous les coachs de la franchise. On connaît pas 100%, mais on connaît 60-70% des besoins de nos gardiens amateurs parce que c'est notre cible à nous. Donc on sait ce qu'on voulait. Donc en fait avec ça, on donne ces infos là aux fabricants. Et ben après, ils nous envoient des prototypes pour qu'on valide, qu'on modifie la technique, les technologies qu'on peut mettre dedans, les différents straps de poignet, tout ce qu'on peut améliorer. Et après, on design les couleurs, on choisit.
Alors cette technique, un gant de gardien, c'est particulier.
Ça peut être très technique parce qu'il y a différentes coupes. Il y a les coupes Rollfinger que Arthur il kiffe, mais nous on n'aime pas du tout. Il y a les coupes négatives, les coupes hybrides, enfin les coupes plates, les coutures inversées. Enfin, il y a plein de et du coup en fait nous on sait plus ou moins ce que nos gardiens ils aiment. Donc on a ciblé quelques modèles de coupes de gants et donc c'est ça qui détermine nos modèles. Après nous on a rajouté quelques trucs à l'intérieur pour qu'il y ait un peu plus de qualité et plus de confort. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du gant, sous le latex, on a mis c'est des fixed strips, je crois que ça s'appelle exactement. C'est des petits points de silicone sous le gant pour quand on a enfilé notre gant, en fait, il évite de glisser.
D'accord.
Donc c'est tout bête.
C'est de l'adhérence aussi, mais dans le gant.
Ouais, voilà. C'est D'accord. tout bête, mais arrivé l'hiver ou quand il y a beaucoup de pluie, ou suffit que le gant se détache un peu parce que il a grand et avec le lavage, avec l'utilisation, ça évite que le gant glisse et qu'on perde le gant, quoi.
Ah ouais.
Donc c'est des petits points technologiques
ça,
qui sont.
Ça, je comprends
cool.
parfaitement. Je vais rendre un hommage à mon papa, là, Claude Lambert, qui avait fait l'école de Sochaux à l'époque, là, sur les dropsy, des coups, et qui s'est fait blesser au stade Vélodrome par un dénommé Joseph Scoblar, là, qui a éclaté la clavicule, et donc qui n'est pas devenu gardien pro. Mais déjà, lui, quand j'étais enfant, me racontait l'histoire des gants à une époque pour. On a essayé plusieurs techniques, il y avait les mains. Les gardiens étaient à la main nue. Pour avoir un peu plus d'adhérence, ils ont mis de la glu, mais ça a créé des accidents, parce que le ballon, il venait pas et tout. Donc après, ça a légiféré. Après, il y a eu des gants en laine. Après, il y a eu des gants qui étaient là pour essayer d'augmenter la surface des mains. On se rappelle dans les années 80, moi je me rappelle notamment d'un Jean-Marie Pfaff, autre là, qui avait des espèces de gants, mais il arrivait à une certaine taille. Le gant, mais finalement, c'est pas aussi simple que ça, parce que tu joues en stabilisé, tu joues en terrain boueux, tu joues sous la pluie, ouais. Dans le sable, sur l'herbe, en terrain sec, ça transpire, il peut tomber, il faut que tu sentes quand même ce que tu fais, il faut que tu puisses quand même avoir tes doigts, c'est pas que une palette. En fait, le cahier des charges pour faire un gant de gardien, aujourd'hui, il est très complet.
Hein. Ouais, c'est une technologie compliquée, mais en même temps ultra importante, parce que le gardien de but, il a besoin d'être à l'aise. Il est en confiance et à l'aise. Si t'es
qu'est-ce
gêné...
que tu cherches dans un gant, toi, aujourd'hui? Déjà, la différence, toi, en tant que gardien, tu joues avec gants, tu joues sans gants.
Ah bah avec gants. Avec j'ai gants. Jamais joué sans gants.
Oui. Je suppose que depuis que tu as des gants, il y a moins de phalanges qui sont cassées.
Ouais.
Parce que, mine de rien, un gardien qui, je parlais de mon papa, mais le nombre de personnes qui ont des mains, des anciens joueurs, années 80-90, qui ont des mains déformées parce que les sorties dans les pieds.
Ouais, moi, j'ai aussi quelques doigts qui sont plus très droits, mais.
Oui, c'est le métier de gardien.
Après, il y a des technologies qui existent. Alors nous, on ne le fait pas, mais c'est un choix pédagogique, entre guillemets. Parce qu'il y a des gants qui existent avec des renforts dans les doigts pour éviter qu'il y ait une torsion trop loin, trop large. D'accord. Et qu'il fasse mal. Nous, on veut pas le faire parce que comme on fait beaucoup, notre base de métier, c'est entraîneur et on entraîne beaucoup d'enfants. D'accord. Et nous, on s'est aperçu avec le temps que...
Mauvaise habitude.
Ben, en fait, les gardiens prennent trop l'habitude d'avoir les renforts derrière, donc ils maîtrisent moins bien le ballon. Et du fait où le jour où ils arrêtent, pour X raisons, ils ont pas le gant avec la barrette,
eh ben oui.
Ils ont un gant classique, ben, ils ont moins de force dans les doigts.
Comme
moins
si on mettait une attelle.
Ouais, il y a moins de préhension et c'est là où les autres blessures arrivent. Que si depuis tout petit, tu leur apprends... Moi, je fais des séances sans gants en début de saison quand le temps le permet et compagnie, pour qu'il y ait une sensibilité avec le ballon, qui touche bien, qui positionne bien leurs doigts et compagnie.
Ce n'est pas que repousser le ballon, il faut être capable de l'attraper.
Voilà.
Donc, si jamais ton truc il est 100% rigide, ce n'est qu'une extension, comment tu attrapes le ballon?
Le nouveau foot, avec les nouveaux ballons, on ne peut quasiment plus attraper de ballon. Mais
pourquoi?
Les ballons, ils volent maintenant. C'est des ballons un peu... La trajectoire du ballon est plus flottante qu'avant.
Ah, c'est qu'ils nous changent le ballon chaque année. Ça, c'est
et
des trucs,
encore maintenant que c'est un peu mieux que ce que ça a été avec les générations Adidas il y a une dizaine d'années, là, où ça a été des ballons inattrapables parce que la trajectoire, elle était inattendue, tu ne savais pas où allait le ballon. Mais nous, on essaye de... L'idée, c'est que le gardien, il attrape le rôle du gardien de but. Maintenant, il faut qu'il touche 80% de ses ballons au pied, qu'il soit bon au pied. Moi, ça, je l'entends, il n'y a pas de débat, il faut qu'il soit bon au pied. Mais le rôle du gardien, c'est qu'il attrape le ballon quand même, qu'il ne prenne pas de but.
Oui.
La base.
Oui,
le numéro 1, c'est ça.
Le rôle du gardien a évolué. On peut parler de l'histoire, le rôle de Bernard Lama, le rôle de Fabien Barthez, le fait que le gardien, à la Joël Batz, sur sa ligne, est devenu un libéro, quasiment. Ça, c'est évident, c'est la progression du foot. Mais un gardien, ça reste, on l'a encore vu ces jours-ci, dans la Ligue des Champions, ça reste encore un acteur qui arrête avec les mains sur sa ligne.
S'il est très bon au pied, mais que dès que tu frappes, si c'est quadrillé à but, plus un gardien, c'est un défenseur.
Tout à fait. Ils ont tous des gants. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est pas des gants de 40 cm. Il y a des règles pour les gants, il y a des points de règlement.
Je crois pas.
Enfin, tu veux prendre un gant de clown d'un mètre, tu peux, là.
En soi, alors, je pense que l'arbitre te dirait en tenue vestimentaire et pas réglementaire.
Oui, bon.
Mais en soi, je pense que tu peux arriver sur le terrain sans gants. J'avoue que j'ai pas cherché.
Alors, je regarde, là, vous avez, donc c'est We Are Cage, c'est un petit peu à l'anglais, Cage avec un K, WEARECAGE.com. Il y a effectivement une boutique.
Oui.
On voit qu'un gant, ça coûte 70.
Nous, c'est le prix qu'on a décidé de faire parce que nous, étant gardien avant, on sait le coût que ça amène aux familles et aux gardiens, sauf quand les clubs financent les gants, mais ça arrive pas très souvent quand même. Il y a une petite aide régulièrement, mais c'est pas régulier. Mais du coup, nous, on s'est basé sur un prix qui est plutôt accessible pour que justement les gardiens puissent s'équiper avec des gants de qualité, mais à un prix, à un coût moindre, quoi. Mm-hmm. Parce que sinon, tu vas à Intersport, une paire de gants de qualité, c'est 120 euros, quoi.
Donc là, ils sont à 70, ils sont de qualité aussi.
C'est de la qualité pareil, c'est de la mousse contact dessus, et ça reste du consommable, même si moi je vais dire que c'est ma marque, on a des gants de qualité, machin compagnie, dans 3 mois avec une utilisation régulière, 3-4 mois, ils sont foutus pareil. Hein.
Ah
donc
oui.
T'es obligé de les changer.
C'est périssable un gant ?
Périssable non, mais par contre c'est inconsommable. Donc quand tu t'entraînes 2-3 fois semaine plus le match, au bout de 3 mois ton gant il faut le changer. Parce que le latex est arraché forcément avec l'abrasion, les terrains pas bons, les cailloux, le synthétique, il y a plus de frottement donc ça arrache le latex un petit peu.
Bien sûr.
Donc forcément
quand on tombe la main par terre.
Alors nous on essaie de leur apprendre à pas tomber avec la main par terre et de se relever avec le poing fermé ou sur la tranche, mais
d'accord.
Mais il y a des mauvais réflexes quand même, donc
il y a aussi l'actualité ou quand il se passe quelque chose, on s'adapte. Hein.
Ouais.
Donc 70 pour les grands, 49, 40 pour les petits. Je vois qu'il y a plusieurs sortes de gants chez vous. Il y a les Vibe, les Stratos, les Urus, les Néon, les Lotus, les Flash Red. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit?
Les différences, surtout des modèles Flash, c'est des modèles d'entraînement.
D'accord.
Il y a moins de technologie mise. Il y a le strap qui est plutôt classique. À l'intérieur, il n'y a pas forcément toutes les technologies qu'on peut mettre dans un gant haut de gamme. Mais nous, ce qu'on a fait, le choix, c'est que la mousse, le latex que tu as dessus qui sert pour attraper le ballon, c'est la même quel que soit le modèle de gant. C'est que de la mousse contact, donc c'est que de la mousse haut de gamme, même sur un modèle d'entraînement. Donc même chez les enfants, parce que moi ça m'énerve quand je vois les enfants arriver à l'entraînement avec des gants. Alors j'adore Decathlon, mais les gants Kipsta, c'est une catastrophe. Pour leur apprendre à attraper un ballon, c'est impossible. Même l'été, le ballon glisse, quoi.
D'accord.
Et moi, quand je veux qu'ils fassent une prise de balle, je leur fais enlever les gants. À la main, ils y arrivent mieux avec un peu la transpiration,
c'est
l'humidité.
Qu'à 30 ou 40 ans, tu humidifies un peu tes gants.
Il faut tout le temps le faire. De toute façon, et pour que ton ton gant il soit efficace, il faut que ton latex soit humide. Sinon, le latex.
Et d'où la bouteille d'eau des gardiens, c'est pas que pour boire.
Ouais. Ou cracher dedans, alors c'est pas très propre, mais.
Mais ça reste humide.
Mais ça fonctionne. En fait, il faut que le latex il reste humide pour que
ça soit. Ça peut intimider lors des sorties.
Pour l'adhérence, il faut que ton gant il soit. Faut que ton latex soit humidifié. Sinon, c'est du carton, quoi.
Est-ce que vous avez des pros qui jouent en cage?
Ouais, alors on a une jeune gardienne, Maïté, qui joue à la Real Sociedad. Elle joue avec l'équipe réserve et là elle vient de monter en Ligue 2 espagnole. Parce qu'en Espagne ils peuvent le faire. C'est-à-dire que tu peux avoir ton équipe première en Ligue 1 et ton équipe B en Ligue 2. Donc là elle vient de monter avec la Real Sociedad. On a Yanis Benchaouch, qui en plus lui est d'ici. Il habite à Château-l'Évêque, qui a été champion du monde avec le Maroc les U20. Et lui il joue avec nos gants. Voilà. L'avantage c'est que c'est mon voisin et que je l'ai eu au collège à la section.
On t'a pu lui expliquer. Voilà.
Je l'ai entraîné un petit peu et puis depuis qu'il est parti à Monaco, je l'accompagnais sur les gants, je lui donnais des gants et compagnie. Donc là, et après on a Grégory Waro qui est à Sochaux, qui là, normalement, enfin on espère qu'il, on va toucher du bois, on espère qu'il monte avec le groupe senior à la rentrée, là, pour la reprise de cette saison.
Le centre de formation de Sochaux nous manque, il a quand même marqué l'histoire de France.
Il bosse sacrément bien et je pense que ça va vite revenir et Greg en fait partie parce que c'est un gamin qui est arrivé tôt à Sochaux et qui a une grosse marge de progression et qui est très bon. Là, on récupère le frère de Steve Mandanda, Mandanda, qui est au stade Malherbe de Caen, donc qui a prolongé une saison de plus et qui du coup nous rejoint.
D'accord.
Donc c'est plutôt cool.
Donc on va voir des cas sur à la télévision, sur les matchs de Caen.
Alors Parfait jouera à Caen. On vient de signer aussi un ancien gardien qui avait joué à Trélissac il y a quelques années, Stéphane Moussima, qui signe à Orléans et qui eux montent en Ligue 3. Donc comme c'est télévisé, la Ligue 3, on aura certainement la chance aussi de voir Stéphane en Ligue 3.
D'accord.
Donc c'est plutôt cool. On commence à avoir quelques gardiens. Après on n'en fera pas 50 parce que c'est pas notre idée, elle n'est pas là de.
Non, mais c'est une reconnaissance. Ça veut dire
valider,
que vous avez fait un produit qui est validé par des gens qui sont des professionnels. Ça veut dire que ce que vous avez fait tient la route. C'est ça que ça veut dire.
En fait, c'est surtout
comme ça.
L'idée, nous, c'était ça. C'était d'avoir quelques têtes d'affiche entre guillemets de jeunes, parce qu'on a fait des jeunes. On récupère aussi Blandine Jolie qui était à Lens, mais je crois qu'il part dans un autre club, mais je sais pas encore où. Qui était en Ligue 2 en féminine aussi. Et nous, notre idée, elle est là. C'est notre cœur de métier, c'est l'entraînement et le foot amateur. Donc oui, nous faut de la reconnaissance du monde professionnel parce que c'est important et que les gens le valident. Mais nous, on bosse pour les gardiens d'en dessous pour justement essayer de les amener à eux aller après au-dessus, quoi.
Alors, tu as dit le mot entraînement. Donc, on va dire Cage Academy, c'est Julien Gac, c'est Julien Lacour.
C'est Arthur Berville.
Arthur Berville. Et c'est donc aussi une académie. Je vois une carte de France, là, Nantes, Saint-Jean-de-Purac, Ancourt, Carquier, Fleury-Mérogis, Tours, Hourtin, Héronville, Saint-Germain-les-Vernes, Cours de Pile, Verson, Agonac, Osgore, Saint-Lô, Lisieux. Dis donc, ça s'est bien propagé quand même. Donc vous avez des académies, vous avez des écoles. Qu'est-ce que c'est que l'académie Cage? Qu'est-ce que vous y faites?
En fait, le principe de l'académie, il est simple. C'est-à-dire que c'est des personnes comme moi aujourd'hui, ce que je fais depuis 10 ans en Dordogne, et que je crée en partenariat avec des clubs, des créneaux d'entraînement pour des gardiens qui n'ont pas de séance dans leur club. C'est-à-dire que nous, on a fait un constat et qui est facile à faire. Hein. C'est que hormis les clubs structurés et les gros clubs de chaque département, ça vaut chez nous, mais ça vaut aussi dans les autres départements. Les autres gardiens des petits clubs de. Alors, Chamier, je crois qu'ils ont quelqu'un, mais moi, ce qu'il y avait à Brantôme avant, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. C'est-à-dire que si tu jouais pas à Trélissac, tu n'avais pas de spécifique gardien. Ou si tu jouais pas à Bergerac, tu n'avais pas de spécifique gardien. Et nous, on est là.
À Boulazac, tu gérais les gardiens.
À Boulazac, c'était différent parce que c'était mon académie, et puis j'étais sur place.
Et puis je t'ai vu entraîner et chauffer le gardien qu'il y avait à l'époque.
Donc,
là.
C'est moi qui le faisais, mais c'était via l'académie aussi. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir que chaque gardien de but, quel que soit son âge et son niveau, puisse avoir la possibilité d'avoir un entraînement. L'idée, elle est là. Quel que soit son âge, son niveau, qu'il puisse participer à des séances d'entraînement et progresser au même titre qu'un gardien qui, aujourd'hui, est en avance dans un club plus structuré, le faire travailler de la même manière, qu'il fasse une progression identique et peut-être plus tard, le doublera, sera meilleur ou jouera plus haut.
Tiens, d'ailleurs, question sociologique, là. Je comparais parce qu'il passe au Brésil. Au Brésil, personne ne veut être gardien. Tout le monde veut être numéro 9. Donc, ils ont du mal à avoir des gardiens. D'ailleurs, en équipe nationale, c'était un problème durant très longtemps. Dans les petits clubs et autres, parfois, des gardiens, c'est ce qui ne peut pas jouer sur le terrain et autres. On n'a pas ce problème, nous, en France. Je veux dire, chez les jeunes, les gamins, les amateurs, il y a un vivier, il y a un potentiel en formation de joueurs qui veulent être gardiens. C'est parce que c'est une place particulière, gardien de but.
Ouais, c'est une place particulière. Alors, pour moi, c'est la meilleure place.
C'est 9, la meilleure place. Mais bon, c'était. mais bon, ouais, mais de toute façon, 9... ça se ressemble un petit peu dans la psychologie.
9, tu décides pas du score.
Non,
gardien de but, tu décides du score. Enfin, tu décides du sort de ton équipe.
Mais 9 et gardien. D'ailleurs, certains 9 ont été gardiens. Oui. Certains gardiens ont été 9.
Ça se ressemble un peu sur...
Ce sont les indépendants de l'équipe, on va dire, quelque part.
Bah, si tu veux une équipe pour monter, quelle que soit la catégorie, il te faut un gardien de but qui ne prenne pas trop de buts et un attaquant qui t'en marque.
Là, il faut un mec qui plante. Voilà,
sinon, t'es mort.
Voilà. Donc, il y a un vivier de gardiens. Ouais. C'est bon, ils aiment bien ça.
Moi, j'ai jamais... Il y a des années où tu as des générations où il n'y a pas de gardien. Enfin, où tu te rends compte que, je dis une bêtise, mais je n'ai pas l'année d'âge, mais 2014, par exemple, bah, tu n'as quasiment pas de gardien. Donc, c'est compliqué de sortir de bons gardiens de ces générations-là. Par contre, tu as des années où tu en as 3 ou 4 sur un secteur de 20 km.
C'est un peu tous les postes, ça,
Mais je pense que c'est... Il n'y a pas de réponse à ça. C'est parce que c'est comme ça. Et où cette année-là... Alors, j'ai pas fait le lien, mais ça se trouve, cette année-là, il y avait une Coupe du Monde ou un Euro où le gardien était sorti, donc du coup les gamins sortis de la Coupe du Monde, ils rentrent au foot, ils veulent mettre des gants. Je sais pas d'où ça vient, mais on se rend compte qu'il y a des trous de génération des fois.
Fabien Barthez, Steve Mandanda, on met un impact sur les jeunes.
Ça c'est sûr. Après maintenant c'est arrivé, c'est un autre problème, mais le problème des enfants quand ils passent dans le monde senior, avec nous, notre secteur en tout cas, où on n'a pas forcément, ils s'en vont sur Bordeaux, sur Limoges, sur Brive, machin. Du coup on perd pas mal de joueurs et notamment des gardiens, donc tu as une difficulté, certains clubs qui galèrent. Moi, j'ai des messages de clubs, j'en ai 2 ou 3 par semaine. Est-ce que tu connais pas un gardien pour nous, pour notre équipe senior, machin, nanana. Alors, je leur dis,
d'accord, donc ça veut dire que si jamais on veut aller en amateur jouer gardien, il y a de la place.
Ah, il y a de la place, ouais.
D'accord.
Il y a de la place.
Parce qu'il y a des postes, quand tu es milieu de terrain, faut la gagner, la place. Hein.
C'est différent, parce qu'un milieu de terrain, s'il joue pas dans cette équipe-là, il peut peut-être jouer défenseur droit dans l'équipe réserve, il peut se déplacer. Le gardien, c'est plus compliqué, quand même.
Ça se détecte, un bon gardien. C'est qu'à mon époque, on prenait un ballon, on lançait une fois au nombril, une fois au menton, une fois au-dessus, et on voyait si jamais il y a les pouces, ça suivait instinctivement. C'était bidon ou on fait encore comme ça?
Non,
ça,
alors...
Il y a des prédispositions.
Mais tu le vois un peu plus tard. Et moi, ce que je trouve qui est bien fait, et là, notamment là où joue mon fils à la JBD, là, c'est que, et beaucoup de clubs le font, hein, c'est que les U6, U7, les plateaux, il y a 4 ou 5 matchs sur la matinée ou sur l'après-midi, chaque match, ils changent de gardien. Donc ça tourne tout le temps, ça permet... Ça permet que tous découvrent un petit peu ça, et ça j'espère que ça va durer jusqu'à la fin des U9, comme ça ça fera 4 ans où ils seront tous passés dans les buts, et peut-être qu'à la fin il y en a un qui va se dire non mais moi c'est... Et puis on l'aura peut-être vu parce qu'il est meilleur, ou en tout cas il kiffe plus ce poste, donc on dira non mais c'est bon, lui en U10, on sait qu'il sera pas attaquant ni défenseur, il sera gardien quoi.
Bon Julien Lacour, Cage Academy, comment est-ce qu'on te trouve, si on veut venir te parler, comment on fait?
Vous pouvez m'appeler sur le site wearecage.com, il y a toutes les infos de nos modèles, de nos produits, de nos gants, de nos académies, de nos futurs stages qui arrivent. Et sinon, mon numéro de téléphone, que je pense Stéphane mettra.
Il y a des stages d'été qui arrivent, des stages durant l'été.
Moi, je fais un stage à Agonac le 13-14 juillet.
D'accord, 13-14 juillet à Agonac, stage, inscription sur place, je suppose.
Inscription au téléphone, il m'appelle, moi j'envoie le document, on me le renvoie et on fait l'inscription.
C'est parfait. Eh bien écoutez, c'était RLP Business Football Guardian But avec Julien Lacour de Cage Academy, We Are Cage, wearecage.com. À tous, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir.
RLP Business. RLP.
Radio Libre en Périgord.